prize, motherfuckers.
Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Alors, petit problème de micro.
Oh, le départ calamiteux. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre. On est de retour pour une nouvelle émission en ce mardi 18 juin. Pour m'accompagner, l'équipe habituelle, notamment Nora à la régie. Comment vas-tu, Nora?
Comment ça va?
Mais ça va très bien, et vous? Et toi? Et voilà.
Tu commences bien ton émission, là.
J'aimerais avoir une excuse, si je me réveille d'une sieste, c'est pas du tout vrai.
Non, ça fait 10 minutes qu'on est prêt dans les starting blocks et on rate le début, c'est pas grave.
Les micros fonctionnent.
Je viens de me rendre compte de ce que t'as fait, t'as réglé les micros, puis t'as tout remis à zéro. Oui, complètement. Oh là là,
Bonjour Aurèle, comment vas-tu?
Eh bien écoute, je me porte à merveille, je fais mon retour, voilà, après une petite semaine d'absence, ça m'avait manqué un petit peu quand même, mais voilà, tout va bien. Et surtout, on a l'équipe au complet. Hugo est avec nous. Comment vas-tu, Hugo ?
Ça va très très bien. Très content d'être là et de ne pas avoir à faire la présentation comme la semaine dernière, ce qui a été extrêmement stressant.
C'était stressant, mais apparemment, tu t'en es quand même plutôt bien sorti.
Oui, je t'en ai bien sorti.
Eh ben, merci aux gens qui ont dit ça.
Alors, j'ai pas écouté, mais
non, mais on est là pour témoigner. Mais du coup, on a pensé te remplacer comme présentateur et prendre Hugo à la place.
D'accord.
Non, on n'a pas pensé ça du tout.
Luni, c'est également avec nous. Comment tu vas, Luni ?
Bah, écoutez, ça va très très bien. Hâte de passer cette nouvelle émission avec vous et puis de parler de MMA comme à l'accoutumée.
Évidemment, donc pour ceux qui nous découvrent, le concept de l'émission est simple, on rate les intros et on parle de MMA.
Allez.
Non mais voilà, donc c'est une bande de potes qui parlent de MMA pendant une heure avec des débriefs, des actus, des quiz ou des chroniques en tout genre. Alors on s'installe confortablement car on est mardi et le mardi c'est Bagarre Club. Le programme de ce soir, ça va être une émission un petit peu différente, car on va faire un premier bilan de cette année MMA 2024. Voilà, on va revenir un petit peu sur les combats marquants, les surprises, les déceptions et sur les attentes qu'on peut avoir pour la suite de 2024. Alors, sans plus attendre, le bilan de la mi-année, c'est maintenant.
How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
Alors du coup, pour faire un petit peu ce bilan de la mi-année, on a fait plusieurs catégories, un peu comme ce qu'on avait fait pour le bilan 2023, c'est si certains ont suivi cette émission qu'on avait fait en fin d'année, en décembre 2023. On avait vraiment fait un petit bilan avec des catégories, les meilleurs combats, les meilleures performances, tout ça. Et bon, on va refaire ça, tout simplement, mais on va réduire un petit peu forcément, parce qu'il y a un petit peu moins de choses à dire. On va commencer déjà, avant toute chose, pour se mettre en bouche, voilà, un petit échauffement. Les gars, je vais vous demander votre mi-année en un mot. Quel mot vous utiliserez pour décrire cette première partie de 2024 ?
Bah moi, je vais être ce mec, je vais dire contrasté.
Contrasté, très bien.
Ça veut tout et rien dire.
C'est vrai.
Non, ça a été un début d'année là qui a été. Moi, j'ai pas regardé beaucoup d'UFC en live. En fait, je me rends compte parce que tout n'était pas intéressant. Et en fait, là, en faisant ma rétrospective pour préparer l'émission, je me suis dit putain, il s'est passé des trucs bien, mais j'ai eu l'impression qu'on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent par rapport à l'année dernière. En tout cas, c'est un ressenti. Je n'ai pas étudié le truc de près, mais ouais, la sensation que j'ai, c'est ça.
Moi, je vais aller, je vais embrayer parce que je suis un peu dans le même esprit que toi. Je suis parti sur éclectique parce qu'on a eu un petit peu de tout, voilà. Ouais, j'ai voulu mettre un mot.
Oh les connards.
Attends, si éclectique, c'est avoir du vocabulaire, je vais te dire.
Voilà,
on a quand même. Je sais pas ce que ça veut dire.
Mais non, mais et ça fait des études de langue, mes frères.
Alors, faut savoir que ce soit Hugo, Lounis ou moi, on a tous fait des études de lettres.
Donc il y a que Lounis qui est arrogant par rapport à ça.
Bah normal. Bah oui, logique.
Donc voilà. Mais ouais, éclectique. Bah comme tu l'as dit, on a eu une année un petit peu en contraste.
En dents de scie.
En dents de scie, c'est ça. Je trouve quand même qu'on a eu du très 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 bon.
Ouais.
On a eu, je pense, à trois événements, l'UFC 298, 299 et 300, qui sont vraiment des gros, gros événements marquants. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, tout le long de l'année...
On a eu Strickland Duplessis, quoi. Donc,
Strickland Duplessis.
Moi, je l'ai vu en direct, c'était pas si mal. Hein.
Non, c'était
bon,
pas si mal.
Chose.
Mais, bref, voilà, on va en revenir.
J'étais là, je l'ai vu.
On va sûrement en reparler tout au long de l'émission. Mais oui, voilà, une année en dents de scie, tout à fait. Lounis, ton mot.
Transition. Je pense que c'est un bon...
c'est pas mal.
Bah ouais, parce que le sentiment que j'ai, c'est que l'UFC est dans, actuellement, en tout cas si on parle purement de l'UFC, est dans une phase de transition. Il y a beaucoup de têtes d'affiche, ou en tout cas de combattants qui, avec un palmarès quand même assez impressionnant, qui sont en train de vieillir, vont probablement laisser leur place à une nouvelle génération. Il y a des rares, mais il y a des combattants immortels. On pourra reparler Max Holloway, mais... Enfin, je trouve que justement la génération de combattants est en train de changer, qu'on a des champions, on ne pensait pas qu'ils resteraient actifs, ou en tout cas qu'ils resteraient à leur place aussi longtemps, et finalement c'est le cas. Je pense à Sean O'Malley, ou Pantora typiquement. Donc ouais, le mot moi qui me viendrait à l'esprit serait transition.
Ah, c'est pas mal du tout, ça me plaît beaucoup ce mot. On va commencer en douceur sur les catégories, les gars. Je vais vous demander, pour vous, quelle est un petit peu votre surprise? Pas forcément un combat, pas forcément un combattant, mais quelque chose dont, début d'année 2024, on vous dit ça, vous êtes en mode « Ah ouais, non, ça, je l'avais pas vu venir ». Est-ce que vous avez des idées?
Alors moi, j'en ai.
Vas-y.
Mais j'ai pas réussi à en choisir un en particulier.
On peut faire un petit pêle-mêle et on essaye de se mettre d'accord sur une ou deux.
Moi, je vais balancer comme ça. Encore une fois, c'est un point de vue personnel, je vais peut-être louper des choses énormes, mais moi, il y a un truc qui m'a surpris récemment, c'est la montée en flèche de Nassourdin. C'est pas forcément que je l'avais pas vu venir, mais c'est que je ne l'avais pas réalisé, et je m'en suis rendu compte là cette semaine.
Moi non plus. Enfin, j'ai vu du coup les deux derniers combats, j'ai revu les deux derniers combats qu'il a disputés. Donc
il est quatrième.
Contre Roman Dolidze et contre Jared Cannonier, mais c'est stratosphérique le niveau qu'il a pris. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais
il a quitté le MMA Factory. Ouais.
Et surtout, en plus, moi j'en avais parlé quand on avait fait justement le débrief de 2023. Moi, c'était ma déception, il m'a vof de l'année, parce qu'il ressortait vraiment d'une année compliquée. Ouais. Il y avait des défaites, des combats annulés, voilà, moins de présence. Et là, 6 mois, 2 victoires contre des adversaires vraiment... voilà, des belles victoires contre des adversaires vraiment costauds. Et il m'a vraiment agréablement surpris. Je l'attendais au tournant. Et il m'a absolument pas déçu, Nassourdin. Est-ce que vous avez un petit peu d'autres surprises comme ça qui vous viennent en tête?
Il y en a un que je vais pas dire parce que je sais que tu vas en parler, c'est sûr.
Oui.
Du coup, je vais parler de Diego Lopez.
Diego Lopez, c'est vrai.
À chaque combat, il est hyper impressionnant. Tu te dis, donc combattant brésilien, si je me rappelle bien, Diego Lopez, qui a une coiffure ridicule, mais ça c'est un autre sujet, mais qui est monstrueux. Et à chaque combat, il revient et il fait du sale à son adversaire.
Bah là, il est sur une série, je crois, de 3 KO, ou en tout cas 3 finitions dès le premier round. Ouais. Genre quasiment...
Monstrueux, mais personne n'attendait là. Quoi.
Et surtout, ce qui est impressionnant quand on regarde son palmarès, c'est qu'il n'a pas, à l'inverse de, je sais pas, au hasard d'un Ramzat Chimaev ou même d'un Raul Rosa Junior, il a pas une, comment dire,
une trajectoire complètement...
Non, c'est clairement pas. Il faisait partie des Dana White Contender Series. Mmh. Il a perdu son combat. Il a eu comme ça des défaites sur décision, sur finition.
Et là, d'un seul coup.
Et on sait pas ce qui s'est passé. Mais depuis, on va dire, je crois même que son premier combat à l'UFC, il l'a perdu. Là, depuis un an, deux ans, au moins deux ans, mais il tue littéralement tous ceux qui croient ça. Ouais. Je ne sais pas si c'est mentalement, en tout cas, s'il a changé de gym, s'il a débloqué quelque chose un peu à la manière d'un... Ben, on parlait de Nassourdin ou même à une époque d'un Charles Oliveira.
C'est les combattants brésiliens. Soit ils se font rouler dessus, soit ils roulent sur la concurrence, mais sans difficulté.
Je ne sais pas s'il l'a traversé, mais ouais, Diego Lopez, c'est extrêmement impressionnant ce qu'il fait. Ouais.
Lounis, est-ce que tu as une autre surprise comme ça qui te vient en tête?
Ah, une surprise.
Une surprise, quelque chose dont tu t'y attendais pas.
que tu n'avais pas prédit, contrairement à certains autres membres du Bagarre Club.
Non, il y en a un, mais on en parlera peut-être un peu plus tard.
Dans la catégorie meilleure performance.
Ouais, c'est vrai.
Voilà.
C'est pas facile. Je pourrais en parler en performance, mais je vais le citer maintenant. Et malheureusement, les gens y pensent peu. Je trouve que Weili Zhang est encore... Enfin, je le savais déjà, mais est une championne vraiment incroyable. Et j'ai récemment revu le combat qu'elle avait disputé contre Jiaon Yan, donc à l'UFC 300. C'est vraiment, je trouve que On parle effectivement beaucoup d'Alexa Grasso et de Valentina Shevchenko. Là, leur rivalité est mise à l'honneur par la nouvelle saison de The Ultimate Fighter. Mais Willy Zhang m'a vraiment énormément surpris agréablement. Je la savais déjà très forte, mais...
C'est un monstre.
Ouais, vraiment. Son combat, donc sa nouvelle défense de titre là à l'UFC 300 m'a vraiment beaucoup, beaucoup surpris et impressionné.
Donc Weili Zhang, championne féminine des poids mouches.
Strawweight,
tout à fait. Weili Zhang, exceptionnel. On l'avait vu à l'UFC 300.
Impériale.
Hyper vraiment, complète.
Ouais.
Une très très bonne combattante.
Tout à fait. Moi, j'avais une autre surprise. Alors, c'est pas tant dans la performance, parce que la surprise dont je vais vous parler, c'est surtout une défaite. Mais c'était le niveau qu'avait réussi à afficher Steve Herceg face à Pantora.
Oui.
Qui, je trouve, on n'était pas beaucoup à l'avoir vu venir. Hein. Steve Herceg qui était 10e des classements et qui arrive à mettre en échec Alexandre Pantora, qui, on en parlait quand même, un mec qui a fait des combats vraiment très, très convaincants.
C'est surtout que c'était le premier combat en 5 rounds de Herceg, quoi. Et qu'il n'est pas habitué, à l'inverse de Pantora, il n'est pas habitué à avoir des combats de 25 minutes très intensifs, très durs, où il y a l'endurance qui joue, mais surtout des combats où vraiment c'est à l'usure, quoi. Herceg n'était pas du tout habitué à ça, et c'est vraiment... Il n'a pas gagné le combat. Je sais qu'il y a eu des discussions sur « Ah mince, c'est un vol ». Je ne suis pas d'accord.
C'est très serré.
Mais je pense que Pantora a quand même fait la différence. Mais vraiment, sa performance était très, très surprenante. Ouais. Je ne l'attendais pas du tout. Là.
Donc, ce n'était pas ma grosse surprise, mais j'avais quand même envie de le mettre à l'honneur sur cette catégorie. Est-ce qu'on se met d'accord sur Imavov
Attends, juste un dernier.
Vas-y.
Tatsuro Taira.
Oui, je suis d'accord, mais c'est très récent encore.
C'est très récent.
Il n'y a qu'un combat.
Mais c'est un combat. Il n'a qu'un combat cette année.
Moi, je crois.
Mais non.
Il me semble que si.
Je pense pas. Hein. Ah, au moins un autre.
Si, mais il arrive bientôt, du coup, pour essayer d'avoir la tête de Pantora.
Mais Tatsuro Taira, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que là, il est quatrième, je crois, un truc dans le genre.
Ouais, il est top 5.
Enfin, Tatsuro Taira qui a invaincu chez les flyweight.
Oui, c'est vrai.
C'est chez les flyweight,
c'est impressionnant.
Là où je mets un autre petit bémol, c'est que son dernier combat, donc, qui a eu lieu ce week-end, il gagne parce que l'autre se blesse. Surtout. Même s'il domine les deux premières rounds. C'est une blessure au genou. Il est sur le dos de son adversaire. Et le genou lâche à un moment. Bon, après, c'est lui qui provoque. Mais
et même il est dans le dos, il fait du striking accroché dans le dos de son adversaire. Oui,
c'est un chimpanzé le mec.
J'ai vu quelqu'un dire le MMA japonais a de beaux jours devant lui, et en effet, quand on voit des performances comme ça, on se dit que
c'est vrai que ça rappelle la grande époque.
La grande époque
des années 2000, quand les règles étaient
approximatives.
Voilà approximatives, c'est ça.
Donc oui, Tatsuro Taira aussi, belle surprise, ça rentre dans le lot. Je pense quand même qu'on se garde Nassourdine en surprise numéro 1.
D'autant que
avec ce qu'on a dit, oui.
Bah voilà, c'est ça.
Si ouais, je pense que je pense qu'on peut en parler, on revient dessus après peut-être, mais Max Holloway contre Justin Gaethje, c'est quand même c'est quand même la plus grosse surprise de l'année.
Non, c'est la performance. Oui, ouais,
c'est les deux.
C'est les deux.
C'est ça qui est...
on le mentionne, on se le garde de côté. Voilà. Parce que je pense qu'en termes de... Bon, bref, voilà.
On y revient après.
Nora, une question, oui.
Yes, une question. Du coup, tu cites Nassourdine comme une surprise, mais si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas le combattant qui est coaché par Khabib ?
Non, c'est ça, c'est Islam Makhachev.
Ah oui, d'accord. Ah, oui. C'est parce que je ne comprenais pas la surprise, étant donné
Après, ils ont souvent des noms de famille un peu homonymes, mais c'est pas... Nassourdine n'est pas du tout coaché par Khabib.
D'accord, c'est une erreur de ma part.
Mais Nassourdine est d'origine
daghestanaise.
Oui, voilà, tout français. À fait.
Mais il est français.
Catégorie suivante, la déception. Après la surprise, la déception. Il y en a des évidentes, je pense, qu'on en a au moins deux ou trois en tête.
Vous pensez que je vais dire quoi ?
Je pense que tu vas dire Volkanovski contre Topuria.
Ouais. Moi,
je l'avais prédit, mais vous savez quoi, il y en a deux qui me viennent en tête. Il y a le combat, j'ai plus son adversaire, mais le combat de Morgan Charrière.
Oui.
Qui l'a perdu vraiment sur le fil du rasoir.
Contre Chepe Mariscal.
Je crois, ouais. Et c'était vraiment. C'est dommage, c'est pas un mauvais combat, mais c'est vraiment dommage parce que très très beau combat, mais il le perd vraiment parce qu'il a pas réussi à finaliser.
Pour moi, déception, c'est vraiment en mode ah, je m'attendais à mieux. Là, c'est en fait le combat est intéressant, mais le résultat est décevant.
Non, j'ai pas. Dans ce cas-là, j'en ai pas. Moi, je pensais à celui-là ou à Oliveira contre Saroukian. C'était frustrant parce qu'il était Oliveira était vraiment à ça de terminer Saroukian et c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça.
Moi, j'ai mis BSD contre Poirier.
Ouais,
j'étais très déçu parce
évidemment.
Que en fait, je l'ai vu manœuvrer, malaxer Poirier pendant un round où vraiment
minutes,
Poirier, il a pas vu la lumière et tout. Je me suis dit, allez. c'est bon.
Si c'est terminé. Ça pendant 5 ans, ouais, c'est faisable. Voilà. Ouais.
BSD, je crois que Dustin Poirier était top 3 à ce moment-là. Ouais. Bon, je crois qu'il est toujours top 3. Je sais plus. Mais ouais, je me suis dit, bon, ça y est, BSD top 3. La prochaine étape, c'est le title shot. Et là, deuxième round, je le vois épuisé. Je fais, mais...
Ouais. Benoît Saint-Denis, on le rappelle, donc, qui s'était incliné par KO au deuxième round contre l'Américain Dustin Poirier. Benoît Saint-Denis qui a été touché par une infection, un staphylocoque, et du coup, il était très clairement diminué physiquement.
Sous antibiotiques, etc.
C'est évidemment pas une excuse, hein, mais c'est une explication.
Mais même lui n'a pas cherché à trouver des excuses après le combat.
Faut pas se cacher derrière. Hein,
et il a faim. En fait, je suis pas tout à fait déçu, parce que pour moi, la marche était très haute. De base, ça allait être très compliqué de battre Poirier.
En fait, le truc, c'est qu'on voit le premier round, on se dit...
C'est prometteur, okay, c'est très prometteur.
Le premier round, antibiotique. Il a fait un premier round exceptionnel contre Dustin Poirier, alors que Islam Maratchak n'a pas fait un aussi bon premier round face à...
Non, mais il a fait un meilleur combat, par contre.
Oui.
Ah, ça c'est sûr. Oui,
bah, forcément,
ça, c'est sûr. C'est Maratchak.
Quand ton combat s'arrête à la moitié du deuxième round, forcément, un mec qui va jusqu'au cinquième, il a des chances de faire mieux.
Bah, non, bien sûr, mais après, j'aime beaucoup.
En pleine possession de ses moyens, je...
Attends de voir.
Attends de voir,
parce que rien ne te dit qu'il aurait... comment dire, juste pour conclure, rien ne nous dit que Benoît, malgré ce très bon, ce premier round prometteur, rien ne nous dit que Benoît Saint-Denis aurait réussi à finaliser, voire même à vaincre Poirier.
Non, mais c'est prometteur.
Mais c'était dommage.
Moi, j'ai une autre déception, et je vous l'avais oublié, et dès que je vous la dire, ça va être flagrant. Bakindoumé.
Ah, bah oui.
Ah ouais.
Honnêtement.
Ouais.
Mais là aussi, c'est dommage. Tout ce trash talk
pendant des mois, un combat au début intéressant, tout ça pour une épine.
Bah, intéressant même pendant.
Oui, non, mais c'est ça, oui.
Mais qui s'est fini.
Mais tout ça pour une épine, et voilà. Et derrière tout le cirque, Doumbé qui arrête pas de se plaindre de l'arbitre, enfin bref. Ouais.
Bah, moi, ce que je trouve dommage, c'est que le combat était vraiment. Là, justement, les deux premiers rounds étaient vraiment hyper intéressants, très prometteurs. On voyait enfin Doumbé avec un adversaire à peu près à sa mesure, quoi. Il était enfin en difficulté, et même le game plan de Baki était super. Et justement, tu parlais de cirque, mais je vais faire une parenthèse là-dessus. Mais Doumbé qui fait, comment dire, qui déclare à qui veut l'entendre, moi je suis un guerrier, je suis pas comme Cyril Gane ou Nassourdine Mavov, je me trouve pas des excuses et tout. Tout ça pour arrêter pour demander à l'arbitre d'arrêter un combat si t'as une épine dans le pied. Mec, tais-toi en fait, soit tu assumes. Assume tes paroles.
Donc Baki Doumbé.
Et du coup,
en fait, c'est pas tant l'arrêt en lui-même, c'est ce qu'il y avait autour aussi.
Je m'en suis un peu
fatigué. Je vais pas mentir.
Je précise ça. J'ai pas de problème avec le fait que justement il décide d'arrêter le combat parce qu'il a une épine dans le pied. Mais tu ne viens pas te plaindre et tu fais pas tout un cirque avant le combat en te prétendant que tu n'es pas. En fait,
je vais avoir une autre déception, mais c'est même pas tant une déception parce que j'en attendais pas grand-chose. C'est plus un vrai flop. Le Strickland Costa. Je pense qu'on est sur le pire combat de l'année. Hein, là,
à ce point-là
parmi disons genre les combats de main card, parce que forcément j'ai pas vu les pré-prélims des Fight Night.
Parce que pour l'avoir vu en direct et faire la comparaison, je peux vous assurer que Duplessis à Strickland c'était plus intéressant.
Mais évidemment.
C'était beaucoup plus technique, plus d'opposition. C'était pas beau, mais c'était plus intéressant à regarder.
C'était pas beau et c'était pas technique. Mais non.
Disons, c'était plus explosif. Il y avait même si c'était pas très propre, au moins il se rentrait un peu plus dedans, les mecs.
Oui, il se rentrait plus dedans, je suis d'accord.
Et là, le Strickland Costa, non mais en fait, par rapport au pedigree des deux combattants, autant Strickland, il a fait du Strickland, j'en attendais pas grand chose, mais Costa, c'est.
Donc, il était chiant, quoi.
Mais ce qui est frustrant avec Strickland, c'est qu'il est capable, en fait, on l'a vu là dans les 10 dernières secondes du combat, il est capable d'utiliser un arsenal de combat quand même, enfin, il y a un arsenal en striking qui est quand même plus développé que juste des jabs et des front kicks. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'il est fort, il travaille dur, il a beaucoup de, comment dire, beaucoup de talent, Strickland, je le pense, hein, je l'aime pas, mais humainement, mais je veux dire, c'est un combattant qui a beaucoup de talent. Pourquoi il se limite à
pourquoi
ça en
il fait tout le jab front kick.
C'est ça.
Droite.
Évidemment, faut pas tout envoyer en deux minutes, mais genre ses coachs lui disent rien. Genre, je comprends pas.
Bah, ça doit être leur stratégie. Hein. Il gagne comme ça. Bah,
c'est ça. Il a gagné comme ça. Et terminé. Bon,
Costa qui, pour moi, est honnêtement, je pense avec Jorge Masvidal, probablement le combattant UFC, l'un des combattants UFC les plus surestimés. De tous les temps, facilement.
Un jour, il va se réveiller, il va nous refaire du Costa comme avant sa défaite face à
Israël. Je pense qu'Adesanya a pris son âme et que c'est fini.
En fait. Mais en tout cas, dans les combats que j'ai vus, c'est celui que j'ai le moins aimé.
Ouais, vraiment. Je suis d'accord.
Moi, j'ai vu que la fin parce que je me suis réveillé dans le brouillard un peu à la moitié du combat. Ouais, de ce que j'ai vu à la fin. Mais après, moi, je reste vraiment bloqué sur Strickland du Plessis, que j'ai vraiment trouvé extrêmement. En fait, je pense que j'ai été impacté par le fait que.
C'est un combat pour le titre.
Ouais. Pour moi, ah, c'était vraiment pas du niveau du titre. Et là, je me dis, si Israel Adesanya, qui est censé combattre pour le titre middleweight face à Dricus du Plessis très bientôt.
Ça a été annoncé d'ailleurs.
Ouais.
Ouais, tout à fait.
C'est officiel. S'il revient avec le niveau qu'il avait face à Alex Pereira.
Dricus du Plessis. Hugo, sous-estime pas Dricus parce qu'on disait.
Je le sous-estime pas. Hein.
On disait tout ça pendant le combat contre Robert Whittaker. Il a terminé Robert Whittaker, tu vois. Donc, ouais. Tout est possible.
Ah oui, donc, mais c'était pas un combat pour le titre. J'ai rarement vu un niveau aussi faible pour un combat pour le titre, tu vois.
Surtout dans une catégorie qui, historiquement parlant, a quand même des standards quand même assez élevés.
Ouais. Les middleweight à l'UFC, c'est quand même.
La catégorie d'Anderson Silva.
Et d'Adesanya, et de Pereira,
et de Chris Weidman,
et de Whittaker. Voilà.
Du cold.
Voilà. Non, c'est vrai que ça faisait un petit peu tâche pour.
Disons que
ça traduisait justement ce que disait Lounis en début d'émission, la transition un petit peu de l'UFC.
On est
dans une période peut-être un peu de creux sur certains endroits et du coup ça se fait peut-être ressentir avec des combats pour le titre qui sont d'un standard technique un peu en dessous. D'autres déceptions comme ça qui vous viennent en tête?
Mais du coup, juste pour expliquer rapidement, parce qu'on l'a dit mais on l'a pas expliqué, Volkanovski face à Topuria.
Oui.
Volkanovski, en fait,
c'est déception du cœur plus de voir son combattant qu'on aime. Mais Volkanovski, c'est un combattant très apprécié qu'on aime tous, qui se prend un KO.
Ancien
fait
roi
mal.
De la catégorie des poids plumes, qui a été premier au classement pound for pound pendant un moment. Donc voilà, qui avait un très 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 gros niveau et qui s'est retrouvé face à.
À plus jeune, plus affamé, avec une technique, un style de combat qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent. Et c'est une transition, en fait.
Ouais,
c'est comme
ça. Voilà, donc un petit peu pour les surprises et les déceptions. On va faire déjà une première petite pause musicale. Nora, dis-nous tout. C'est quoi la première musique qu'on passe?
Rose Orangée.
Rose Orangée de Caballero. Donc on s'écoute ça et on revient juste après. À tout de suite.
Les nuages en rose orangé, mais ça change rien, c'est rageant. Bloqué dans la seule BD où les héros sont rongés, je reste là à voir les gens heureux s'arracher. Le soleil peint les nuages en rose orangé, mais ça change rien, c'est rageant. Bloqué dans la seule BD où les héros sont rongés, je reste là à voir les gens heureux s'arracher. Elle m'accompagne partout. Je peux pas dire que ma colère me manque. Je peux pas non plus dire que je vis correctement. J'attends encore qu'elle me demande comment je vais, que je puisse répondre mal. Mais comme dit Jassim, ça va m'aider à faire un vrai beau mal. C'est forcer à croire que tout est parfait, que tout est à sa place. J'ai mis plus de 30 ans à capter que c'était ça la base. Je t'assure qu'il y a que comme ça que ça ira mieux. Je voulais dire adieu, que je comprends toujours pas pourquoi il m'oblige à dire adieu. Des fois j'arrive pas à voir toute ta miséricorde. Ce que je raconte ça doit trop t'amuser. Rigole, rigole, tu sais, j'ai déjà été le clown de pas mal de gens. T'avances pas si vite lorsque tout le monde s'accroche à ta pesante. Mais bon, au moins je me suis musclé. Comme je te l'ai dit, on s'efforce à voir le bon côté. Tu devrais le faire aussi. Du moins essayer. Ouais, essaye un peu. Essaye un peu. Le soleil peint les nuages en rose orangé. Mais ça change rien, c'est rageant. Bloqué dans la seule BD où les héros sont rongés. Je reste là à voir les gens heureux s'arracher. Le soleil peint les nuages en rose orangé. Mais ça change rien, c'est rageant. Bloqué dans la seule BD où les héros sont rongés. Je reste là à voir les gens heureux s'arracher.
Yeah.
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune. Vous écoutez toujours le Bagarre Club. J'espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie. On a déjà fait la première partie de l'émission, donc sur le bilan de la mi-année 2024 en MMA, évidemment. On a vu un petit peu les surprises et les déceptions qu'on a eues jusqu'à présent. Et là, on va rentrer dans le sujet un petit peu plus concret. On va commencer avec la meilleure performance, tiens. Meilleure performance de cette mi-année. Est-ce qu'on fait un vote à
non,
la façon...
Non, c'est très bien. Non.
Bon, on va... Parce qu'en fait, on en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. La performance de Max Holloway contre Justin Gaethje à l'UFC 300, légendaire.
Voilà, tout simplement. Top 5 plus grand moment de l'UFC en tout cas. Du MMA, je ne sais pas, mais de l'UFC, oui, clairement.
Je suis très heureux d'avoir pu vivre ça en live. Donc, Max Holloway qui fait un combat exceptionnel sur 5 rounds, parfaitement maîtrise face à Justin Gaethje, le plus gros frappeur de la catégorie. Donc, Max Holloway qui a lui-même monté de catégorie, donc qui est censé avoir un désavantage de puissance face à son adversaire. Il fait un combat parfait sur 5 rounds et dans les 10 dernières secondes du 5e round, il remet tout en jeu et il fait la bagarre avec Justin Gaethje qui est encore une fois le plus gros frappeur de la catégorie, si ce n'est un des plus gros frappeurs à l'UFC.
Donc cette image de Max Holloway qui a 10 secondes de la fin alors qu'il a un combat en main, il pointe le centre de la cage et il dit à son adversaire en gros 10 secondes, pas de protection, on s'envoie des mandales comme ça.
Celui qui gagne ça, il a tout gagné.
C'est ça. C'est exactement ça. Tu joues avec des potes à un jeu.
C'est ça.
Et tu dis, je sais pas.
Il y a 5-0. Bon, allez.
Prenons un exemple qui n'a rien du hasard. Je joue à Mario Kart contre Hugo. Je gagne mes 10 courses sur 11 et à la 11e, je dis et si on faisait, celui qui gagne celle-là a tout gagné.
Ça n'est jamais arrivé parce que quand on joue à Mario Kart avec Aurélien et qu'il gagne 10 courses, il me le fout dans la gueule et c'est tout.
Exactement. Voilà. Non, mais voilà, donc moment légendaire, plein de.
Et il l'a mis KO du coup.
Il l'a mis KO à la
dernière seconde du combat. Ouais. C'est ça aussi qui ajoute quelque chose à la légende, mais. Max Holloway immortel. Je pense qu'honnêtement, ça devrait être ça, hein, immortel.
Durant ce combat, personne n'aurait pu l'avoir.
Non, parce que il est. Je parlais de transition. Bah là, typiquement, avec Volkanovski, donc qui se fait mettre KO partout pour. Il y a, ça arrive rarement, mais il y en a en tout cas qui, pour qui la retraite, on va dire, n'arrive pas tout de suite et qui reste comme ça très très longtemps au plus haut niveau. Max Holloway et de ces combattants-là.
Mais il a pas un combat de prévu face à Topuria.
Non, pas encore.
C'est pas officialisé, mais on y viendra. Bon.
Ouais. C'est dans les petits papiers, on va dire.
Moi, c'est je pense un des combats qui me hype le plus personnellement.
Je pense qu'on est d'accord, meilleure performance
de très loin.
Voilà.
Ouais.
On le met de côté. Il est hors catégorie.
Parce que c'est quand même assez exceptionnel.
Est-ce que on parle? Moi, j'ai envie. Enfin, non. Allez, je vous laisse y aller. Est-ce qu'il y en a une performance comme ça qui vous vient en tête?
Vas-y,
Ulysse, ton alter ego.
Mon alter ego.
Sean O'Malley.
Alors oui, je pensais à Sean O'Malley, effectivement.
Sean O'Malley qui a fait un.
Qui a fait un combat.
À sens unique.
Mais à sens unique contre le seul. Alors même si cette défaite est un peu controversée, mais il a complètement dominé pendant 5 rounds de Marlon Vera, qui était donc le seul combattant à lui avoir infligé une défaite jusqu'à présent. Et c'était vraiment. Je parlais ça, justement de. C'était. Je ne pensais pas en fait que Sean O'Malley avait ce niveau-là. Je l'ai jamais pris entre guillemets à la légère. Je savais que c'était quand même un combattant très sérieux qui s'entraînait beaucoup et qui a fait quand même des combats très impressionnants, notamment face à Petryan. Mais que ce soit le fait qu'il arrive à mettre KO Aljamain Sterling et le fait qu'il domine mais complètement Marlon Vera, qui est quand même un très très bon striker. C'est-à-dire qu'il lui a jamais laissé l'occasion de s'exprimer. Alors,
il n'a pas vu la lumière.
Non, j'ai revu la vidéo, mais effectivement, ce genou sauté qu'il envoie à un moment donné avec le crochet, mais c'est d'une violence et je le croyais pas capable justement d'un côté aussi féroce
agressif.
En fait aussi agressif je le pensais pas capable de ça, donc O'Malley me surprend en bien et c'est pour ça que je suis et regardez de plus près, je serais pas de l'avis de tout le monde en pensant que Merab Dvalishvili va complètement le dominer.
Mais on pensait qu'Aljamain Sterling allait lui rouler dessus.
C'est ça le truc. O'Malley, il est plein de surprises. Donc, il y a O'Malley,
Là où il m'a le plus surpris, Sean O'Malley, sur ce combat, c'est que j'avais un petit peu cette image avant du combattant qui performait plus par fulgurance. Oui. C'est-à-dire, il pouvait subir des temps faibles, il pouvait être un petit peu dominé et tout, mais il arrivait toujours par un crochet, par sa puissance, sa précision, par aller infliger un KO ou mettre dans le mal, ou le mettre dans le mal son adversaire qui lui permettait ensuite de gagner le combat. Là, on n'a pas forcément vu ça, on ne l'a même pas du tout vu pendant ce combat, mais juste il était méthodique, il ne s'est pas livré, je trouve qu'il a fait une performance de champion. Voilà,
c'est
tout
un
simplement.
Champion, hein.
C'est un champion.
Au-delà de ça, c'était une performance de champion, mais c'était. En fait, on aurait dit que Marlon Vera n'avait rien à faire là, quoi. C'est ça, le truc de fou.
C'est-à-dire que...
Le seul truc positif qu'on peut tirer du combat de Marlon Vera, c'est. Il s'est pas fait mettre KO. Le truc le plus impressionnant dans ce combat, c'est le fait que lui, il soit resté debout en se prenant vraiment une déferlante. Mais c'était terrible, quoi.
Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Et je voulais dire un truc, j'ai oublié. Tant pis. C'est que c'est pas important. Non, mais ouais.
Performance de champion.
Ouais, c'est ça, performance de champion, tout simplement. Et en fait, si c'est ça que je voulais dire, c'est que je trouve que. Une performance comme ça de domination sur 5 rounds en striking, parce qu'on sait, striking, même si t'es dominant, il y a toujours des phases où tu peux être mis en danger. Là, il l'a pas du tout été. Je trouve ça limite presque plus impressionnant qu'un KO au bout de 2 rounds ou un truc comme ça.
Ah oui.
Donc,
C'est vraiment, il a mobilisé, mais t'as l'impression que c'était une leçon. C'est-à-dire qu'il a utilisé toutes ses.
Il jouait avec son fils.
Tout son arsenal, tous les kicks, toutes les techniques qu'il avait, il les a toutes mobilisées et c'est vraiment. C'était assez terrible à voir pour Marlon Vera, mais du coup, c'est, comme tu l'as dit, il est peut-être pas hyper charismatique en conférence de presse. Il peut faire rire parce qu'il a des cheveux étranges et on va dire une attitude qui laisse un peu audacieuse, qui peut laisser à désirer. Mais O'Malley, non, c'est un vrai champion.
Ah ouais,
il a l'attitude et les facultés d'un vrai champion.
Ce dont certaines personnes doutaient fut un temps.
Ouais. Dans une catégorie de tueur à gages.
Ah mais l'une des catégories les plus relevées, voilà, quand même. Le bantamweight, c'est dur. Ouais.
Donc on a hâte de voir son combat contre le géorgien Mehrab Djalishvili, qui devrait normalement arriver logiquement dans pas trop longtemps, on l'espère. Est-ce que là, comme ça, pêle-mêle, vous avez d'autres performances, même si ce n'est pas meilleur, mais qui ont le mérite qu'on peut évoquer? Moi, j'en ai une. Ce n'est pas tant à la performance en elle-même, mais c'est plus au contexte qu'il y a autour. C'est la victoire qu'a réussi à aller chercher Brian Ortega contre Thierry Rodriguez.
Oui.
Ortega qui revient d'une longue blessure en 1 an et demi. On se disait, attention, Rodriguez, striking, très dangereux. C'est un combattant qui est dans le top depuis un moment et tout. Et il arrive à aller chercher la soumission au deuxième round. Donc là-dessus, moi, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Je me suis dit, OK, on a un Ortega qui est de retour, quoi. Ouais. Blessure, pas blessure, il y allait, tout simplement.
Et bah d'ailleurs, Brian Ortega qui va affronter Diego Lopez dans...
Oui.
J'ai pas vu l'annonce.
En Common Event de l'UFC 303.
Voilà, ouais, exactement, merci. 303.
Common Event de...
De Yiri contre Alex Pereira 2.
Oh ouais.
Bah, qui est... C'est quoi?
Déjà, il est
c'est ce week-end?
C'est pas ce week-end, non, c'est celui d'après.
Mais il est très courageux, Brian Ortega, d'accepter d'affronter le numéro.
Semaine prochaine, on fera évidemment la preview de l'UFC 303 parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et ça va être passionnant, je pense. On va passer donc à la prochaine catégorie. Donc c'est un petit peu la.
Attends, je peux en dire un dernier?
Rapidement.
Ok. Alex Pereira qui met KO Jamal Hill.
Ouais, non, ça c'est ton petit bonheur personnel. C'est ton petit plaisir.
Parce que Jamal Hill KO, moi je
c'était pas une perf, c'est dingue que ça. Elle était amusante. Mais
voilà. Donc on va passer du coup à Low Worlds, si on peut dire. au meilleur combat de cette mi-année. Lunis, je vais te laisser commencer. Tiens, vas-y. Est-ce que.
Meilleur combat.
Lequel te vient en tête là, comme ça? Moi j'en ai un. On l'a annoncé en plus en tant que puriste. Mais le Mehrab Cerrudo.
Ah oui, c'est vrai.
Oh, le Mehrab Cerrudo, moi.
Ah, mais c'était le combat de lutte de l'année, pas le combat de MMA de l'année.
Oh non, parce qu'il y a eu des phases de striking.
Non, il y a eu des phases de. Ben, en vrai, ouais.
En termes de performance technique et tactique,
non,
ça a été vraiment du.
Je pense pas
en
que.
En fait, on parlait du Strickland du Plessis qui était peut-être sur le papier, enfin, même pour les non-initiés, plus spectaculaire.
Ouais.
Mais le Mehrab Cerrudo, le niveau que les deux avaient, c'était hallucinant. Vraiment, c'est le très haut niveau, tout simplement.
Oui, oui.
Attends, Strickland du Plessis plus spectaculaire?
Non, Strickland. Sur le papier.
En fait, genre, dans le côté rentre dedans, dans le côté bagarre.
Oui. Parce que à ce moment-là, Strickland sortait d'une domination complète sur Adesanya.
Même après avoir vu le combat, les gens moins initiés peuvent se dire, vas-y, il y avait plus de bagarre, ils se sont rentrés dedans et tout. Mais en termes de niveau pur...
C'est vrai que Cerrudo... mais je pense pas que le Kidam puisse apprécier. Je dis pas ça pour être pédant, mais
c'est un truc de nerd.
Ouais, mais vraiment, quand on connaît le MMA de manière un petit peu plus avancée, c'était extraordinaire ce combat.
C'était qui avait dit ça? Il y avait quelqu'un, l'un de vous deux, qui avait dit s'il y a une phase de striking durant ce combat, je serais mécontent.
C'était oral.
Tu as dit, je veux que la lutte. Parce que aucun fan de MMA n'a jamais dit.
Extraordinaire. La feinte que, comment dire, que je crois que c'est
Cerudo.
C'est Cerudo.
Ouais. À un moment, il fait une feinte de takedown. Mera plonge pour faire un sprawl. Et Cerudo en profite pour passer sur le côté,
il
prendre décale, le dos.
C'est magnifique. C'est magnifique. Allez voir ce combat si vous êtes un nerd ou une nerd.
Ou si vous voulez le devenir.
Non, mais pour le coup, vous voulez voir de la lutte divertissante en MMA, regardez ce combat.
Ouais, tout à fait. Vraiment. Je suis d'accord. Autre combat, Hugo, qui t'a marqué dans cette mi-année?
Strickland Duplessis, non, je rigole. alors, la réponse un peu évidente pour moi, c'est Poirier Makhachev. Qui était vraiment exceptionnel.
C'est vrai que c'était un très beau combat. Ouais.
Qui est arrivé la semaine, il y a deux semaines, si je me rappelle bien.
Oui, c'est ça, deux semaines.
Donc voilà, qui était super, quoi. Que ce soit au sol, que ce soit debout, ça a été très divertissant. Makhachev est allé dans ses retranchements, ce qu'on ne pensait pas aussi. Enfin, dans ses retranchements. Il s'est fait mettre en difficulté, en tout cas.
Il était un petit peu tenu en échec sur.
Parce qu'il a décidé de rester debout sur certaines phases, qui étaient intéressantes. On va dire, ça a été divertissant, contrairement à certains combats de son entraîneur Khabib, qui lui avait tendance à faire des câlins aux jambes de ses adversaires pendant 5
ans.
Donc il y a ça. Et alors attends, moi la réponse de nerd un petit peu aussi, je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas c'est celui que j'ai envie de mettre en valeur, c'est Chepe Mariscal contre Morgan Charrière.
Ouais. Ah c'est vrai.
Notre français Morgan Charrière.
Ouais.
Où il y a plusieurs personnes à la fin de ce combat qui m'ont dit, putain là pour l'instant c'est le combat de l'année. Et en vrai, aller le voir, c'était assez exceptionnel quand même.
Ouais, c'est vrai, je suis d'accord.
Même si Morgan a perdu, ce qu'on regrette énormément, en fait, les deux combattants ont amené vraiment du divertissement et de la technique, quoi. C'était beau.
Voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Beau combat aussi. J'avais aussi le Pantora Herzeg j'ai fait une petite liste de. Ouais, non, c'est vrai, mais.
C'était sympa, mais bon.
Il y avait évidemment, Holloway Gedi, combat de fou.
Ah, oui.
Le Tsarukyan Oliveira.
Ouais,
très sanglant.
C'est vrai. Vraiment très âpre, très dur.
Même le Weili Zhang
Chaoyan,
qui était vraiment pas mal. En fait, tu trouves qu'il n'y a pas vraiment de combat qui ressort en mode. En fait, parce que Merab Cerudo, techniquement, je pense que c'est le meilleur. Mais si on rajoute le côté, toute la dramaturgie, le storytelling et tout, il n'y a pas eu de combat vraiment qui est resté dans les mémoires. Qui
les performances,
dans les mémoires.
Oui.
Bah, il y a des images
mais il
n'y
a pas
un combat en entier. Ouais.
Voilà, ou en mode, il n'y a pas eu un Prochka Teixeira ou un truc comme ça.
Non,
voilà.
Il n'y a pas eu ça. Mais,
donc, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu des performances plus qu'autre chose. Voilà, est-ce que, allez, on va dire, on a jusqu'à 40 pour, comme ça, lâcher des petits moments, des petits trucs, un combat qui vous a marqué, une performance, par exemple.
Pereira contre Jamal Hill.
Voilà.
Mais en vrai, le truc était drôle, mais on parlait de Pereira. Moi, c'est mon combattant préféré, mais le combat entre Jiří Prochka et
Alexander. C'était 2023, ça.
Non, Rakic.
Ah, Rakic.
Rakic. Okay. Donc là, l'UFC 300, où vraiment, pendant les deux premiers rounds, Jiří est complètement, entre guillemets, dominé.
Submergé.
Par Rakic. Il saigne, il a une blessure à l'œil, etc.
Il se fait casser la bouche, si je puis dire.
Vraiment, il s'en prend. Et à un moment donné, il touche, mais vraiment, je crois qu'il lui met un jab ou une droite. Sur Rakic chancelle, mais vraiment d'un cheveu.
Poil.
Jiří sent le.
Coup de genou sauté!
Non, mais il sent le sang, en fait, littéralement. Ouais,
c'est un requin.
Il a l'odeur du sang, et là, il se rue sur lui, et c'est vraiment. Mais façon.
Avec une technique.
Mais vraiment comme un guerrier. Mais vraiment comme un guerrier viking, et il le met KO comme ça, c'était incroyable. Ouais. Moi, c'est pour ça que je l'aime, donc.
Moi, d'autres petites performances comme ça qui m'ont marqué, c'est la victoire, par exemple, de Jack Della Maddalena sur Gilbert Burns.
Oui. Pareil, une transition, une génération qui passe.
Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Je pense aussi à Michael Venom Page contre Kevin Holland.
C'était
un combat marrant.
En fait, c'était marrant, mais ça aurait pu l'être bien plus. En fait, on ne l'avait pas vendu comme
vraiment, ça.
Ça
devait vraiment être un
Kevin
combat
Holland
très drôle.
Qui est très divertissement, mais qui n'était pas vraiment dans son combat ce soir-là. Et je pense que c'est un peu aussi de la faute de Michael Venom Page, qui a bien fait pour le coup, il l'a complètement obstrué. Il l'a empêché de travailler et je pense que ça a beaucoup frustré Kevin Holland qui a un peu abandonné en mode
Allez, ça m'a saoulé, je m'amuse chez moi.
S'il s'amuse pas,
j'ai envie de rentrer chez moi.
Voilà.
Voilà, du coup, un petit
pourquoi
peu
drôle
pour ces, parce que c'est il y a beaucoup de provocations, les mecs ils se parlaient, voilà, ils se trash talkaient pendant le combat.
Enfin, mais ça, c'est voilà. Habituel.
Non, pas pendant le combat. Parce que eux, ils parlent beaucoup pendant le combat. Ils font des figures, des pirouettes, des trucs un peu absurdes.
Son surnom, c'est Big Mouse, je crois.
C'est
un truc dans le genre. Je crois que Dana White l'appelle comme ça parce qu'il parle tout le temps. Il la ferme jamais.
Je pense, lui, contre Sean Strickland, tu as un livre audio dans l'octogone.
Non.
Je pense que tu mets l'un et l'autre face à face.
Donc voilà un petit peu pour cette catégorie. On va faire une dernière petite pause musicale et on reviendra un petit peu sur plutôt nos attentes pour la suite, plus que sur la rétrospective du premier semestre.
Attends, Nora. Avant ça, non mais parce qu'en fait, en vous écoutant parler, j'étais en train de mater le combat Gaethje contre Holloway.
Ouais.
Et non mais Holloway, en fait, on en avait déjà parlé un petit peu avant et j'aime bien son style en fait, parce qu'il a un côté. Mais c'est un enragé le mec en fait, il est complètement taré. Hein. C'est incroyable. Ouais. Il a un physique très fin, mais par contre le mec a l'air complètement malade. Oui, pardon, j'empiète un peu sur.
Ah non, mais il n'y a pas de souci.
Et du coup, je trouve que le combat est vraiment sympa parce que tu sens qu'il se donne à fond. Et bon, après, Gaethje trébuche pas mal de fois aussi, mais.
Parce qu'il s'est fait casser la boue.
Ouais, voilà, c'est ça. Attends, le moment où il lui tend sa tête, il bat le pied. Enfin, bref, c'est incroyable. Mais voilà, du coup, je vous rejoins là-dessus.
Donc voilà, écoutez Nora, regardez Holloway Gaethje, c'est pour l'histoire.
Non, mais c'est bien, c'est divertissant. Et d'un autre côté, c'est. Je sens qu'il est précis, quoi, qu'il est vraiment à fond.
La pause musicale.
Oui.
Dis-nous ce qu'on écoute.
On va s'écouter Mary Had a Little Lamb de Steve Vaughan.
Ouais, tout pareil. On écoute ça et on revient. Allez, à tout de suite.
Had a little lamb. His fleece was white as snow, yeah. Everywhere the child went, you know the lamb was sure to go, yeah. He followed her to school one day and broke the teacher's rule. What a time did they have that day at school.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club, j'espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie. On va continuer du coup avec notre petite émission bilan du premier semestre de 2024. Donc on a déjà fait plutôt le bilan avec les meilleurs combats, les déceptions, les surprises, tout ça. Là, on va essayer de se tourner un petit peu vers l'avenir, se projeter un petit peu dans le futur et notamment sur ce qu'on attend du reste de l'année 2024. Et les gars, la première question que je vais vous poser, c'est parmi les événements, les combats, tout ce qui est plus ou moins annoncé, soit officiellement, soit qui va probablement se faire, quel est un petit peu ce qui vous hype comme ça, l'événement qui vous hype? Vas-y Hugo, t'es motivé.
Moi je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est Léon Edwards contre Belal Muhammad.
Bien sûr.
Non, qui va être le combat le plus chiant de l'année 2024, si ce n'est le combat le plus chiant de tous les temps.
Pire que Strickland Costa?
Je ne pense pas. Honnêtement, je pense que ce sera moins divertissement, moins divertissant que Strickland Costa.
Mais petit pas de côté par rapport à toi, je trouve que Léon Edwards, il a un côté un peu intéressant à analyser parce qu'il est très propre.
Oui. Mais ça c'est pas divertissant, c'est non, ça c'est que vrai. Je veux dire, ça me hype pas.
Mais voilà, moi Léon Edwards, pour ce côté-là, j'ai un petit attachement, mais c'est pas un combattant que j'ai envie de voir énormément. Mais
de voir le combat entre Léon Edwards et Belal Muhammad, où Belal Muhammad va gagner par décision partagée après 5 rounds de loup. Ça va être du loup, ça va être du touche-touche, c'est vraiment, ça va être du light.
Sérieusement, Hugo, quel est l'événement, le combat, le truc que tu attends pour cette fin d'année 2024?
J'ai vraiment eu du mal à... J'en ai plein, en vrai. Je vais essayer d'en choisir un en particulier. Et je pense
le retour de McGregor. Ah bah non.
Bah j'aimerais bien.
Je l'ai noté, j'ai dit j'aimerais bien que McGregor revienne cette année.
Je sais que c'est un truc de casu, mais genre moi j'avais vraiment envie de voir McGregor pour le coup.
Non mais tout le monde. Le truc c'est que
Alors moi non.
Ah bon?
Ah vraiment non.
Ah tu t'en fiches?
Pas que je m'en fiche, mais en fait, moi, McGregor, quand il était à son prime, je regardais pas le MMA.
Ah, c'est vrai.
Et en fait, du coup, bah, je suis un peu passé à côté de la hype. Le fait qu'il fait que de parler sur les réseaux, qu'on parle plus de lui, un combattant inactif, alors qu'on devrait parler des combattants qui, pour le coup, sont vraiment actifs, ça m'énerve un peu. Ouais. Et sportivement, je pense qu'il serait revenu rincé. Je vais peut-être être dur. Hein.
C'est vrai, je pense que c'est un truc de casu de dire qu'il est forcément rincé.
Non, parce qu'on le voit, il est constamment sur son yacht à faire la fête et tout.
Ça, non, les vidéos de sparring, alors après c'est difficile de s'y fier, mais les vidéos de sparring qui ont été publiées, non, il a toujours son coup d'œil, il a toujours
ses... Moi les sparring récemment, c'est pas trop mal.
Je sais qu'il faut pas s'y fier. Parce qu'avec des vidéos publiées, même moi je peux passer pour un combattant pro, hein, c'est très facile.
Non, mais, je suis désolé Aurèle.
Non mais dans le sens...
Je suis désolé de te stopper là.
Dans le sens, en fait, tu prends 10 secondes d'un sparring où vraiment t'es chaud et tout, bon bah...
C'est vrai.
Quand t'es McGregor, j'espère qu'il y a un moment où t'as été fort en sparring, sinon on va avoir un problème.
Pour faire une petite comparaison, les Américains pensaient que Cyril Gane n'avait absolument aucune chance face à John Jones. Bon, au final,
l'histoire... Bah, il avait raison.
Non, mais alors, je pense pas qu'ils avaient raison, je pense que Cyril a été...
Non, c'est pas vrai, en plus, Cyril Gane était favori.
Mais tout ça pour dire que de l'extérieur, on avait l'impression que Cyril Gane passait ses journées à jouer aux jeux vidéo sur FIFA.
Oui, mais c'est pas la question. Hugo, la question, c'est qu'est-ce qui te hype?
Honnêtement, je pense que je vais dire le retour de Benoît Saint-Denis contre Raphaël Fiziev.
Okay. Oui, ça c'est un combat que j'ai envie de voir depuis très longtemps.
Potentiellement à l'UFC Paris.
Depuis très longtemps. Ouais.
Okay. L'UFC Paris, ce serait exceptionnel.
Moi, bah, du coup, je vais aller dans le côté plus général, mais l'UFC Paris me hype.
Moi aussi.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses d'un point de vue sportif qui pourraient marquer un tournant de l'MMA français.
Bah, et puis Cyril va revenir puisqu'il combat uniquement aux UFC Paris.
Voilà, c'est ça. Non, mais en fait, là, je pense qu'on va faire un petit côté un peu global entre ce qui nous hype et ce qu'on attend un petit peu. Mais moi, l'UFC Paris, ça va polariser beaucoup de choses que j'attends dans cette fin d'année 2024. Le retour de Benoît Saint-Denis, globalement. Cyril Gane, je l'attends au tournant.
Ouais, moi
clairement,
aussi.
Si le combat contre Jailton Almeida, j'attends une performance convaincante de sa part, c'est-à-dire pas juste tourner autour et l'empêcher de lutter, c'est vraiment aller chercher un KO.
Oui.
Un KO, une finition.
Une soumission.
Non, mais voilà.
Incroyable. Bah là,
un
KO. Un progrès.
Parce que là, honnêtement, je pense qu'il doit se racheter aux yeux de son public.
Il doit se prouver.
Aux yeux des Américains. Il doit prouver à lui-même qu'il est encore capable de mettre la leçon au mec un petit peu derrière dans les classements poids lourds. Et voilà, briller devant son public face à un combattant qui va lui imposer un certain challenge. Ça, j'attends. Morgan Charrière, je l'attends énormément parce que c'est un combattant que j'aime beaucoup, qui est très spectaculaire et qui, je pense, a un coup à jouer dans les poids plumes. J'attends Manon Fiorot.
Pour le titre.
Ce sera sûrement pas à l'UFC Paris.
Bah,
mais
peut-être en 2025, je pense.
Voilà, c'est ça.
Moi, je croise les doigts, je me dis que ça peut peut-être se faire cette année.
Ouais. Il est programmé pour quand le combat?
Le problème, c'est que c'est Shevchenko Grasso.
Bah oui.
Pour
quand est-il programmé?
C'est septembre, à la Sphère de Vegas.
Ah, on peut avoir un combat pour décembre.
On peut avoir un combat pour décembre. Après, le problème, décembre, c'est ouais. que là, les résultats, c'est quoi? C'est victoire de Grasso, match nul. S'il y a victoire de Shevchenko, ça part pour un quatrième, terminé bonsoir.
Ouais, mais imagine Alexa Grasso qui met une soumission premier round.
Là, dans ce cas-là, peut-être pour décembre, voilà. Ça peut être intéressant.
Donc,
à voir.
Il y a une possibilité. Voilà.
Donc bref, moi, UFC Paris, ça me parle. Pourquoi pas un Nassourdine contre Strickland, contre Vettori, contre un gros nom des points moyens aussi. Ça peut être des choses qui peuvent être sur la carte et intéressantes. Lounis, qu'est-ce qui te hype pour cette fin d'année 2024?
Alors effectivement, le retour de McGregor, j'aurais bien aimé le voir, c'est un peu dommage. Ah ouais. Mais je dirais Holloway Topuria. J'ai vraiment envie de voir ce que... Est-ce que Max Holloway peut redevenir champion et surtout face à un combattant qui a une boxe très aboutie mais très différente de la sienne? Ils ont vraiment pas la même approche, la même anglaise, et ce serait très intéressant. Enfin, stylistiquement, j'aimerais vraiment voir ce combat-là. Bon, là, après, mon attente, elle arrive bientôt. Hein. J'ai envie de voir si, pareil, Iri Prochazka est capable de battre Alex Pereira. Est-ce qu'il est capable de submerger Pereira et justement de trouver la réponse?
On en parlera plus longuement la semaine prochaine.
Mais du coup, ça aussi, c'est une de mes attentes. Et puis, en dernier lieu... Effectivement, l'UFC Paris, je serais curieux de savoir qui fera le main event. Est-ce que ce sera Salgan, Benoît Saint-Denis? Et si c'est Benoît Saint-Denis, contre qui? Moi, effectivement, le combat contre Fiziev, j'ai envie de le voir depuis très longtemps. J'aime beaucoup Fiziev et j'ai toujours trouvé que ce serait un très bon match pour Benoît Saint-Denis. Et comme je plus sois ce que vous avez dit, effectivement, j'attends aussi Salgan au tournant. Parce que là, je ne comprends pas vraiment ces décisions de management et puis ces décisions sportives.
Là, je pense qu'en plus, pour Salgan, on est d'accord que s'il y a contre-performance... Il perd tout le monde, hein. Les Français, les Américains.
Il a déjà perdu pas mal de monde après la défaite face à John Jones.
Et surtout, si en plus à côté t'as un Benoît Saint-Denis qui fait une grosse performance, t'as un Nassourdine Imavov qui fait une grosse performance,
Cyril va être mis dans le vent.
Bah, il va être relégué et voilà, il va rentrer dans le rang un peu plus des combattants.
Faut pas qu'il se repose sur ses acquis.
Tout à fait.
Et même, parce que je rebondis là-dessus, puisqu'on parle de l'UFC Paris et des combattants français, même les autres combattants français en général, que ce soit Nora Cornol, que ce soit du coup Nassourdine, on en a parlé rapidement. Ça, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer avec Nassourdine aussi. Que ce soit Kevin Jousset, Morgan Charrière. En fait, on a des combattants français qui sont vraiment au niveau. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner de ce côté-là.
Mais je suis bien d'accord. Le MMA français qui, de toute façon, ça fait partie un petit peu d'une émulation globale autour du MMA français. De toute façon, on va être dans la continuité et peut-être même dans l'aboutissement avec certains champions. Même si c'est pas 2024, ce sera sûrement début 2025. Ouais. Donc voilà, on peut englober un petit peu tout ça dans notre approche. Des petites attentes comme ça. Moi, j'espère un retour de Shavkat.
J'ai noté Shavkat pour le titre. J'espère que Shavkat combattra pour le titre.
Moi, j'aimerais bien voir un combat contre Jack Della Maddalena avant.
Ce serait hyper.
Moi, j'ai envie d'attendre un petit peu. J'ai envie que Jack Della Maddalena il fasse des combats contre d'autres gros noms. Que chacun évolue un peu de son côté, quitte à ce qu'il y ait un combat au sommet à la fin.
Le problème pour ça, c'est que Léon Edwards Belal Muhammad, ça va être donc en juillet. Juillet-août, je sais plus, mais voilà. Il me semble que c'est fin juillet. En fait, le problème, c'est que ce soit Léon Edwards ou Belal Muhammad, ce ne sont pas des combattants qui sont réputés pour être très actifs. Donc, sachant que Shavkat, son dernier combat, ça remonte déjà à décembre 2023, s'il doit réattendre que Muhammad ou Edwards refassent un combat et tout, il n'aura pas combattu depuis plus d'un an. Donc je pense que c'est pour ça. Un combat contre Jack Della Maddalena vers octobre-novembre, je pense que ça peut être une solution.
Ça peut.
Voilà.
J'ai pas envie, mais ça peut.
Et en plus, j'ajoute à ça que Shavkat, j'adore ce mec. Vraiment, c'est mon combattant préféré. Je l'ai déjà. Avec Max Holloway. Mais je trouve que c'est vrai que si on regarde de plus près les noms, entre Geoff Neal ou Stephen Thompson, qui sont des gros noms, des tops de la catégorie, ils n'étaient pas top 5.
Il faut qu'ils montent encore un petit peu, je suis d'accord.
Tu vois, ils n'ont pas affronté des Kamaru Usman qui ont pu être champions. Enfin, ils n'ont pas affronté le gratin de chez gratin. C'est pour ça, ça peut être l'un pour l'autre un gros test.
Usman Rakhmonov, ce serait hyper intéressant pour le coup.
Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais.
Ça permettrait à Shavkat Rakhmonov de pouvoir se tester face à. Enfin, même s'il a passé son prime, mais l'un des plus grands champions, voire le second plus grand champion welterweight de l'histoire de l'UFC. Donc ce sera un combat vraiment intéressant.
Moi, comme autre attente, sinon, j'ai noté, bon, rapidement, hein, Tatsuro Taira, que j'aimerais bien voir combattre pour le titre.
Comme Pantora, ça serait un combat de fou.
Ah ouais, parce que Tatsuro Taira, vraiment monstrueux, on en a parlé rapidement tout à l'heure. J'ai noté, alors, dans mes notes, j'ai marqué Conor, pitié. Pitié, faites revenir Conor McGregor, on n'en peut plus, ça fait 6 ans qu'il... Enfin, non, j'exagère, mais...
Moi, je pense qu'il reviendra jamais.
Il reviendra jamais.
Non, mais on disait ça avant son dernier combat, il va revenir, il va faire une performance éclatée, si ça se trouve, mais il va revenir, il peut pas partir... comme ça, il y arrivera pas lui-même. Faut une fermeture quoi. Ouais, donc j'ai noté ça. J'ai noté le combat de Adesanya contre Dricus du Plessis,
ouais, hype aussi. Ouais, ce qui
ne m'est jamais arrivé avant d'être très hype par un combat de Israel Adesanya.
Surtout au vu de ses déclarations qu'il a fait au moment de l'annonce, comme quoi il revenait, il s'en foutait de la ceinture, il venait pour arracher les têtes.
Faut assumer.
Voilà.
Mais j'espère que ce sera le cas.
Faut assumer.
Moi, j'ai toujours la même posture vis-à-vis des déclarations comme ça. J'y prête pas grande attention. Ce que je me fie à ce que je vois dans l'octogone, tout simplement.
Adesanya est capable de faire ça pour le coup.
Mais oui,
ah, j'espère.
En fait, il a le temps là pour. Est-ce qu'il a encore l'envie? Ça, on le verra le jour du combat.
Ouais. Et ouais, en fait, j'en ai marre. Là, on a enchaîné avec Sean Strickland et Dricus du Plessis avec la ceinture des middleweight. Non, c'est bon, donnez-nous quelqu'un qui a un peu de technique, un peu de niveau, un peu de panache.
On veut revoir un certain standard chez les poids moyens.
Ouais, non, c'est bon. Mais voilà, le dernier truc auquel je pense, et je sais pas si je pense qu'on va être d'accord, c'est j'aimerais que Ramzat revienne en bonne santé.
Alors, je pensais ne jamais dire ça, mais ouais.
On va y toucher deux mots parce que Ramzat, il était censé combattre ce week-end contre Whittaker. Il a pas pu, de un gros souci de santé. Et en fait, le problème, c'est que c'est récurrent chez Ramzat sur ces dernières années.
Et c'est inquiétant.
En fait, au début, on était en mode, il est chiant, c'est relou et tout. Mais au final, on se dit que je pense que lui-même, il n'a pas envie de cette situation.
Là, il est à l'hôpital. Alors là, il a subi une intoxication alimentaire. On n'a pas plus de détails. Mais ce qui est regrettable, c'est que bon, peu importe ce que je pense de lui, on va dire de l'homme, athlétiquement et d'un point de vue sportif, c'est quand même un des combattants.
Un alien.
C'est un des combattants les plus prometteurs, en tout cas, de l'UFC. Je le voyais sans problème devenir champion à un moment donné. Donc c'est vrai. Et surtout, il est très divertissant, quoi. C'est triste de pas voir ce que Ramzat pourrait donner.
Laisse à désirer de manière régulière, donc oui, en fait ça nous inquiète pour la personne derrière le combattant, quoi.
C'est ça. Puis en plus, c'est pas un combattant qui a du genre à faire des chichis en mode non, en fait je le sens pas bien et tout.
Non, clairement,
Ramzat, quand il pouvait combattre, il combattait, il se posait pas de questions.
Il a le record de victoires d'affilée, je crois,
en peu de temps et dans des catégories différentes, oui.
Ouais. Bref. Voilà un petit peu donc pour ce bilan de cette mi-année 2024. Voilà, on a fait une belle émission, une grosse émission. On est venu un petit peu sur tout ce qui avait un petit peu à dire. Semaine prochaine, on se tournera tranquillement vers l'UFC 303 qui arrive parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous donner vos retours, à débattre avec nous ou nous poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. La première règle du Bagarre Club, c'est qu'on parle du Bagarre Club. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler autour de vous, à nous suivre sur Instagram et Twitter, @lebagarreclub. Hugo, les podcasts, petit pour podcast. Podcast.
C'est quoi ça?
P-O-D-C-A-S-T.
Oh là là, j'en peux plus, j'ai trop de choses à faire en ce moment. Mais ça va arriver un moment.
Ouais, on ne sait pas quand, on tient plus de promesses là-dessus, mais... Ouais. Peut-être ça arrivera. Lounis qui fait le signe de la flûte.
Charlie Parker.
Occupe-toi des podcasts, Lounis.
Merci à vous. On vous souhaite une très bonne soirée sur Prune. On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.